Interview.
'Légué ces pionnières, au-delà de leur qualité de résistance, de leur patience et de leur intelligence. D'abord, leur combat contre l'ignorance et les inégalités entre les filles et les garçons. Grâce à elles, l'enseignement général et professionnel s'est développé pour les jeunes filles. L'accès aux métiers s'est élargi et de nouvelles professions ont vu le jour. On peut citer Elisa Lemonnier, qui a investi le domaine de l'enseignement professionnel féminin, ou encore Marguerite Tiner, à l'origine de la fonction d'inspectrice des écoles. Pauline Roland, quant à elle, a participé à la création d'une association réunissant instituteurs, institutrices et professeurs socialistes. Ces femmes ont aussi innové dans le domaine social. Flora Tristan est à l'origine des enquêtes sociales modernes et à imaginer une union universelle des ouvriers et ouvrières. Jeanne de Rouyn a œuvré au rassemblement des associations fraternelles et solidaires afin de renforcer leur efficacité. Elles ont également contribué à faire entendre les voix des femmes dans l'espace public. Eugénie Niboyet a créé le journal La Voix des Femmes, tandis qu'André Léo, de son vrai nom Léodile Champsex, a fondé la République des travailleurs. Leur héritage se retrouve aussi dans le développement du travail social. Création d'écoles spécialisées, reconnaissance de nouveaux métiers, comme les infirmières visiteuses, les surintendantes d'usine ou les assistantes sociales. Marie-Jeanne Bassot et Marie Diemer ont joué un rôle majeur dans cette évolution. Dans le domaine économique, Nathalie Lemel a créé et géré des coopératives, notamment le restaurant coopératif La Marmite et la coopérative de consommation Les Équitables de Paris. L'éducation populaire leur doit également beaucoup. Louise Michel a participé au développement des cours du soir, des universités populaires et de nombreux réseaux associatifs. Enfin, ces pionnières ont profondément changé le regard porté sur l'enfance issue de milieux défavorisés. Elles ont favorisé la suppression des asiles, la création de l'enseignement préélémentaire et des écoles maternelles, l'émergence de nouvelles pédagogies ainsi qu'une meilleure protection des enfants abandonnés et ou maltraités. Parmi elles figurent Pauline Kergomar, Marie-Pape Carpentier, Marie Moré et Olga Spitzer.
Bonjour, ici Erdivois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Scarlett Wilson-Courvoisier. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi Karine Melzer. Bonjour. Bonjour. Gudrun Mattes.
Bonjour.
Bonjour. Et Connie Baker.
Bonjour.
Bonjour aussi à toi. Et donc, vous êtes toutes les quatre ici pour nous parler du matrimoine, et notamment celui de Scarlett Wilson-Courvoisier. Vous avez rédigé cet ouvrage intitulé « Le matrimoine, ce que nous ont transmis les pionnières de l'ESS de 1830 à 1999 ». Et vous nous parlerez un peu de cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a motivé à le rédiger et de quoi traite-t-il principalement ? Karine, pareil, donc chargée de mission à la frappe. Et c'est vous, Karine, qui avez initié cette idée de rendez-vous autour de ces micros pour nous parler du matrimoine et de cette notion. Face à vous, il y a Gudrun, membre du collectif Matrimoine Andiwa, tout comme Connie Baker. Et vous nous indiquerez aussi cette action portée par le Matrimoine Andiwa, qui a opéré il y a quelques années sur notre territoire, et savoir ce qu'il en est aujourd'hui et peut-être ce qu'il faudrait pour le relancer. Voilà. Et donc, Karine, pourquoi cette envie de ce partage de temps entre nous?
Eh bien oui, j'ai proposé à Radio Diwa d'organiser ce plateau parce que ben, Scarlett, c'est une vieille amie. On se connaît depuis 20 ans et on s'est rencontrés dans les réseaux au niveau national de l'économie sociale et solidaire. Elle travaillait à la délégation interministérielle à l'économie sociale quand moi j'arrivais au niveau national et que je découvrais cet environnement. Donc elle m'a marrainée dans le secteur, elle m'a expliqué qui étaient ces gens, comment ils travaillaient, les dessus de table, les dessous de table. Parce que pour agir dans les environnements, il faut comprendre. Et on a en commun aussi ben, d'avoir vraiment agi pour la place des femmes dans l'économie sociale. On a monté il y a une quinzaine d'années le collectif Femmes ESS, où on s'est réunis entre plusieurs femmes de l'économie sociale et solidaire pour redonner de la place aux femmes sur les colloques, les tables rondes, entendre un peu la voix des femmes et puis faciliter aussi le fait qu'elles puissent prendre des responsabilités parce qu'on a beau être dans l'économie sociale, donc les associations, les coopératives, les mutuelles, quand on arrivait au haut niveau, il n'y avait plus que des hommes, des vieux mâles blancs de 50 ans, et qui ont trouvé ça important que les femmes puissent aussi accéder à ces responsabilités et changer un petit peu les choses. Et Scarlett, quand elle est partie à la retraite, elle a entamé un énorme travail, justement, pour pouvoir retrouver la place des femmes dans l'histoire de l'économie sociale et solidaire, depuis le début du 19e jusqu'à nos jours, et voir un petit peu quelles ont été leurs contributions, sachant que, comme dans plein de domaines, les femmes sont complètement invisibilisées, et que c'est un vrai travail ben, d'archives, de recherche, d'aller retrouver ces femmes, leur parcours de vie et ce qu'elles ont pu apporter dans le secteur. Du coup, j'avais très envie, évidemment, que Scarlett elle puisse nous parler de son livre, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir le mettre en écho avec une autre dynamique plus locale du collectif Matrimoine en Diwa, dont l'objectif était aussi bah, de faire vivre, revivre, de redonner de la place à des femmes qui ont contribué à ce territoire, à son histoire, à ce qu'il est aujourd'hui. Et puis de voir aussi les différentes manières de valoriser les femmes. Donc ça passe par des ouvrages, de l'écrit, mais aussi par le fait de pouvoir bah, amener les femmes artistes à être représentées. Donc ce que fait Connie, enfin, toute cette question aussi de comment on donne la place qu'il aurait dû quand même aux femmes dans la société sur tous les aspects, et que ça soit dans la culture ou dans l'histoire associative et coopérative. Bah, ça me semblait intéressant de pouvoir croiser les approches. Et j'avais envie de lancer cette invitation d'un entretien croisé sur la démarche de Matrimoine.
Alors, Scarlett Wilson, Courvoisier, qu'est-ce que vous avez été très tôt initiée à l'économie sociale et solidaire, par conviction, par héritage?
Comment je suis rentrée dans l'économie sociale? Ah ben, c'était le débat entre les tenants de l'économie sociale et de l'économie solidaire. Alors, ces débats-là, il y en avait depuis très longtemps, puisque les acteurs de l'économie sociale ont commencé à se regrouper à la fin des années 70. Ils ont créé un machin qui s'appelait le comité de coordination des activités associatives, coopératives et mutuelles. Et par ailleurs, au niveau politique, Michel Rocard réfléchissait sur l'autogestion. Et à travers le biais de l'autogestion, il est arrivé sur l'économie sociale. Donc il a rencontré des tas de gens, ce qui fait que quand la gauche est arrivée et qu'il a été nommé ministre du plan de l'aménagement du territoire et de l'économie sociale, tout était prêt. On pouvait créer une délégation pour promouvoir et développer cette notion d'économie sociale. Donc moi, je suis rentrée par le politique. D'où j'ai toujours eu, à cœur d'être là où on pouvait aider à développer, à promouvoir cette notion d'économie sociale, puis à solidaire. Officiellement solidaire, il y a eu un premier essai de mettre en avant les solidaires lorsque, en 1983, Jean Gattel a été nommé ministre du développement local. C'était essentiellement pour l'économie solidaire. Les tenants de l'économie sociale les institutionnels, super institutionnels, eux, ils se sont bagarrés et ils ont obtenu la prépondérance. Ce qui fait que dans les années 2000, on a eu un travail de fond à faire sur la mise en contact des acteurs et responsables de l'économie sociale, d'un côté, et les tenants de l'économie solidaire. Ça s'appelait, ça a duré un an dans toutes les régions, et ça s'appelait les consultations régionales de l'économie sociale. En 2000, il y a eu un ministre qui s'appelait Guy Asquette, qui lui était tout à fait solidaire. Donc, le solidaire est passé au premier plan, même si dans le titre, on a rajouté politiquement économie sociale. Voilà, en bref.
Et donc, je viens justement à cet avènement hein, de la gauche arrivant au pouvoir, avec ce développement de cette notion de solidarité. Et qu'est-ce qu'il y avait en place à ce moment-là? Pour vous, il y avait cette nécessité d'amener cette notion d'économie solidaire et sociale?
Mais si vous voulez, je l'ai découvert un petit peu au fur et à mesure. Mais il me semblait intéressant qu'un projet, socio-économique qui intégrait la solidarité me paraissait fondamental. Et donc, je suis rentrée dans ces démarches. Et je suis restée 40 ans, quand même, avec toutes les évolutions que ça a supposé. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on mélange un petit peu trop les choses et qu'on va vers un peu plus d'impact, de libéralisation. On mélange un petit peu les théories.
Est-ce que vous avez un exemple, peut-être, à vos yeux, qui pourrait être cité?
Si vous voulez, la loi de Benoît Hamon de 2014 a défini un périmètre où il a fait rentrer la possibilité d'élargir, ce qui était une très bonne idée parce qu'elle était réclamée par beaucoup de gens, c'est-à-dire ne pas rester à l'intérieur des frontières de l'économie sociale et solidaire, mais d'élargir à d'autres notions. Mais ensuite, on a été vers l'entrepreneuriat social, que moi, je critique. Bon, je m'arrête là au niveau de l'économie critique, mais bref. Alors après, il y a eu les entreprises à mission. Il y a eu les entreprises à impact. Donc, moi, j'ai peur que ça noie un petit peu l'idée même, les fondements de notre économie sociale et solidaire.
Le fait de développer, justement, fragilise un peu les notions peut-être développe des porosités qui sont néfastes au mouvement.
Si vous voulez, on a affaire à un monde de prédateurs. Le monde libéral, ultralibéral, financiaro-libéral, autoritaire, que l'on voit se développer partout, c'est un danger pour l'économie sociale. Et c'est pour ça que mon ami Jean-François Drapry, qui a fait ma préface, vient de sortir un livre qui s'appelle « Repenser l'économie sociale », où lui... Je ne dis pas que je ne l'ai pas encore complètement lu, mais il dit qu'il faut également introduire, pour repenser et reconstruire l'économie sociale, les formes associationnistes du Moyen-Âge et traditionnelles en France, d'une part, et d'autre part, intégrer tout ce que les groupements de personnes dans les pays du Sud, ont permis. Donc, lui, il est moins entrepreneurial que tout ce que je viens de citer préalablement et que je trouve... c'est un melting pot qui est dangereux.
Karine, vous vouliez rajouter ?
Oui, peut-être pour préciser, en fait, je crois que c'est, et on le voit bien, et dans le livre de Scarlett, c'est assez présent aussi quand on retrace l'histoire, c'est que de toute façon, tout ce qui est alternatif, l'économie sociale s'est bien créée en alternative à l'industrialisation, au modèle capitaliste, où c'était comment les gens s'organisent entre eux pour d'abord avoir une réponse à leurs besoins, mais aussi développer leurs outils de travail, leur emploi, etc. Et à chaque fois, c'est des alternatives. C'est des gens qui pensent ça, des nouvelles manières de faire, qui s'organisent de nouvelles façons. Et à un moment donné, c'est institutionnalisé. Donc ça rentre par des lois, par des règles, par des financements publics, des choses comme ça. Et donc ça va perdre un peu de sa dimension et de sa force politique et transformatrice, mais en même temps, ça la pose dans le paysage. Et à côté de ça, il y a des nouvelles alternatives qui vont se construire, continuer à faire bouger des lignes, puis un jour s'institutionnaliser. Et donc, moi, j'ai vraiment cette lecture-là d'un aller-retour entre ce qu'on va inventer sur un territoire pour répondre à des besoins, à des envies, à des désirs aussi de façon de vivre. C'est repris par l'institution, donc ça gomme quelque part sa puissance politique et transformatrice, mais en même temps, ça la pose. Mais ça recrée, du coup, des envies de nouvelles alternatives et qu'on est dans ce cycle-là. Et je pense que les femmes, elles ont su créer, inventer plein de manières de répondre aux problèmes qu'elles avaient, elles, ou qu'elles voyaient dans la société, et qu'elles restent aujourd'hui encore souvent dans l'innovation et dans les alternatives. Elles sont porteuses de tout ça.
Oui, mais en fait, j'ai un peu peur que c'est pas un chemin d'une direction. En fait, parce que là, comme tu l'as dit, oui, c'est très bien. Et du coup, ça serait, en fait, si tout continuerait comme ça, on serait dans une merveille. Mais là, on est dans une rollback. Et justement, du coup, les institutions, là, ils n'écoutent plus beaucoup, ni les femmes, ni les artistes, ni les chercheurs, chercheuses. Donc, je crois que c'est ça un peu le point critique actuel qu'on va lutter encore beaucoup plus qu'avant.
Alors, je voudrais aller dans le sens de qui vient d'être dit, c'est-à-dire que nos dirigeants en France, c'est vrai, sont capables d'adaptabilité. Dans ce sens, ils parle beaucoup de transition écologique, de transition numérique, de transition démocratique, de transition démographique. Oui, mais prenons l'exemple de la transition démographique. Tous les calculs, les hypothèses de travail font que en 2040, la population française va vieillir considérablement. Donc, comme les femmes vivent un petit peu plus vieux que les hommes, ça va être beaucoup de femmes avec des besoins adaptés à leur vieillissement. Et elles ont besoin de quoi ? Eh bien, d'action sociale, d'action de solidarité, d'action... leur retraite, qui aujourd'hui est inférieure à la retraite des hommes... Il va falloir qu'elles se battent encore pour. Donc, la transition démographique ne peut pas fonctionner, quelle que soit la stratégie qui sera inventée, sans le regard et l'intégration des problèmes des femmes, spécifiques aux femmes. Donc, et qu'est-ce que je vois, moi ? C'est que les dirigeants, aussi intelligents soient-ils, aussi gentil soit-il, aussi senti. Comme je vais être négative après, il faut bien que je fasse du positif.
Okay.
Avant. Eh bien, à ce moment-là, il n'arrive toujours pas, en 2026, à faire en sorte que les femmes soient considérées au même titre que les hommes dans leur rôle, leur contribution, leur mission, leur salaire, etc., etc. Donc, on est dans une farce dramatique, mais une farce. Parce qu'on est dans les discours et pas dans les pratiques.
Et en plus, ça va aussi être aller dans une mauvaise direction, parce que là, il y a beaucoup plus des gens qui se marient plus. Et du coup, il y a moins de sécurité pour les femmes, qui, surtout s'ils ont des enfants et dès qu'ils n'ont pas travaillé pendant quelques années et après peut-être en mi-temps, parce que les enfants, voilà, ils grandissent. Hein, c'est pas que quelques 1-2 ans. Donc, ça va être vraiment compliqué
quand, très
avec toutes ces séparations et des femmes mères. Ouais, il faut penser maintenant.
Alors, je suis d'accord, ça va être de plus en plus compliqué. Mais moi, je dis, il faut arrêter que la thématique des femmes ne soit pas intégrée dans les réflexions.
Ah bah oui.
On en est encore là.
Oui, mais l'histoire nous a montré, je pense, très clairement que, premièrement, rien n'est acquis une fois pour toutes. Et deuxièmement, rien n'a été acquis vraiment comme cadeau de la société ou cadeau des institutions, mais uniquement par les luttes. Jamais, et parfois, donc, pendant des centaines d'années, hein, le droit de voter, par exemple, tout cela. Donc, je vais dire, donc, là, on est, on a le regard sur le changement de société et je pense que c'est absolument en vain d'appeler à la bienséance ou à la bienveillance des hommes ou de la société. Il faut faire. Voilà, donc,
Gudrun, justement, vous avez initié avec d'autres Matrimoine Andiwa. Quelle était cette motivation et par quelle démarche avez-vous opéré? Je me souviens de cette exposition de femmes qui ont agi en société depuis des décennies. Il y avait ces photographies sur la place de la Comtesse, entre autres. Et qu'est-ce que ça a amené sur le Diwa, justement, ce matrimoine en Diwa?
Je crois que notre originalité, c'était de réunir donc, plusieurs secteurs. La recherche historique, l'expression culturelle et la création des événements. Et donc, la synthèse de ces deux branches, quand même, ça nous a amené à pas mal de productions sur plusieurs directions, sur la comtesse de Die, par exemple, sur donc la situation des femmes dans la production de laine et de la soie. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Yvonne Audan, donc bibliothécaire et grande résistante dont la famille est originaire du Diwa et plus précisément de Minglan où moi j'habite aussi. Notre fonctionnement c'était donc le partage de tout cela donc par une dynamique de recherche-action ou action-recherche et donc, pas de recherche sans essai de partager ça avec la population du Diwa.
Je reviens un peu sur cet événement où beaucoup d'associations féminines ou autres étaient présentes. Quelle était pour elles l'envie d'y participer? Est-ce qu'il y avait aussi peut-être un but de développer peut-être une politique ou une mise en éclairage de la condition des femmes sur le territoire, par exemple?
Je crois qu'il y a une envie à travers la biographie, par exemple, de certaines femmes complètement marginalisées ou oubliées par l'histoire, de découvrir la place des femmes dans l'espace public en général, et dans le passé, mais aussi dans le présent, de questionner tout cela, et donc se poser des questions en général, hein, sur comment est-ce possible que des femmes extrêmement importantes, à un certain âge, ont été complètement effacées. C'est quoi les mécanismes là? Et en découvrant ça, je veux dire, on découvre beaucoup sur ce qui se passe aujourd'hui. Et dans ça, c'est extrêmement éclairant.
Et justement,
en plus, le quatrième volet de notre recherche action, c'était autour de Cybèle, une déesse romaine, qui était très célèbre dans le deuxième siècle après de notre ère. On a appris que Cybèle, elle était plus haute que tous les autres dieux romaines. Mais on ne la connaît pas. Mm-hmm. Et ça, en fait, j'ai des frissons parce que, en fait, quand il y a des injustices, moi, c'est corporel. Et donc, je ne comprends pas. En fait, j'ai appris le latin et tout, et je ne connaissais pas. Ici, je l'ai découvert. Il y a des stèles, des... Et donc, heureusement, à Die, on a des hôtels tauroboliques qui représentent Cybèle, en fait, qui sont dédiés à Cybèle. Et donc, avec toutes ces traces, des artistes féministes ont pu faire un travail sur Cybèle. Et c'est pour ça que nous, aussi dans le collectif Matrimoine en Die, on a fait un travail sur Cybèle pour en reparler et pour dé-invisibiliser cette déesse.
Cet
héritage hyper important. Voilà, donc c'était notre recherche action.
Scarlett, justement, par rapport à votre engagement politique sur cette économie solidaire et sociale, Qu'est-ce qui était présent justement dans les mécanismes de politique de l'époque? Quelle était la place des femmes à ce moment-là?
Alors, la place des femmes, bon, si je pense au PSU, il y avait Parti Socialiste Unifié. Donc, c'est dans les années 60-70. Il y avait pas mal de femmes au Parti Socialiste. Il y avait très peu de femmes. Heureusement, celles qui étaient là, c'était des fortes femmes. Je pense à Yvette Roudy, par exemple. Elle a fait avancer la cause des femmes. Bon. Je pense à Simone Veil, dans d'autres gouvernements, a été soutenue quand même par son président Giscard d'Estaing. Donc, si vous voulez, au niveau des gouvernements et au niveau du législateur, il y a beaucoup de textes favorables aux femmes. Si, il y a des textes. Bon. Le problème, c'est l'application des textes, la rapidité d'application des textes. Je parle du divorce, je parle de plein de choses, et qui n'est jamais, jamais considérée par rapport à la vie quotidienne des femmes. Bon. Et d'autre part, ça c'est bien. Par contre, les mentalités n'ont pas vraiment les pratiques venant des mentalités ne se sont pas vraiment réformées. Et je ne parle pas de bienveillance des hommes, parce que quand ils sont dirigeants, ils sont peu bienveillants.
En plus, oui.
En plus. Bon. Mais si vous voulez, je n'arrive pas à comprendre comment, à notre époque, depuis 200 et quelques années, 235, on n'arrive pas à dire que les femmes sont à l'égal des hommes. Alors, je vais vous citer une phrase, j'ai le droit, une phrase de Françoise Héritier, anthropologue, dans son livre « Masculin-féminin » paru en 2012 à Odile Jacob. Et alors, elle dit... Pourquoi une hiérarchie s'est-elle greffée sur la simple différence des sexes? Est-il envisageable de la dissoudre? Comment les hommes se sont-ils assurés le contrôle de la fécondité des femmes ce pouvoir exorbitant d'enfanter du différent des fils et des filles. Comment les hommes ont-ils exploité le corps des femmes dans la prostitution et l'entretien domestique ? Comment, en retour, les femmes n'ont-elles pu commencer à se libérer que du jour où, et seulement là où, les moyens de contraception leur ont été permis de reprendre le contrôle de leur fécondité ? Alors, elle envisage, évidemment, de s'attaquer et de dissoudre la hiérarchie existante, et elle constate qu'il y a toujours des obstacles. Même s'il y a des lois, il y a des obstacles qui sont dus à des stéréotypes qui sont reproduits par les femmes et par les hommes en permanence. Bon. Et alors, elle dit, et je partage ce qu'elle dit, la différence et l'asymétrie pourraient être le fondement de la société et d'une véritable harmonie, à la différence de la hiérarchie qu'on nous impose. Voilà. Alors moi, cette phrase, cette question-là m'a obsédée. Et moi, je me suis ressassée pendant des années la question suivante. Comment peut-il se faire qu'un écosystème, pendant plus de 235 ans, notre économie sociale et solidaire, ses dirigeants et militants, hommes et femmes, affirment relever des grandes valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, affichent des principes et modes de fonctionnement démocratiques qui en découlent, affirment se concentrer prioritairement sur tout ce qui est humain et l'émancipation de l'humain, tout en perpétuant décennie après décennie le même oubli abyssal, le même déni, le même silence, l'invisibilisation récurrente des femmes. Alors aujourd'hui, les femmes représentent dans l'économie sociale 68% des salariés, c'est pas négligeable, 95% dans des secteurs dits féminisés comme le care, bon, très bien, mais 35% seulement lorsqu'il s'agit d'être présidente, voilà. Alors, voilà. Alors, pourquoi, les deux autres questions que je me pose, pourquoi mettre en avant un modèle socio-économique original qui se veut démocratique dans les mots, les discours, mais pas dans les actes ni les pratiques ? Et encore moins dans les esprits. Or, pour moi, démocratie et égalité vont de pair. On ne peut logiquement concevoir l'un sans l'autre. Voilà.
Karine Melzer, cette question ou ces questions, est-ce que vous les connaissiez aussi ?
Eh bien oui, et en faisant le constat sur le terrain, et notamment... je pense que j'ai vécu la même chose que Scarlett, quand on travaille dans l'économie sociale et solidaire, et en plus à des niveaux institutionnels, où on essaie de défendre ce modèle-là par rapport au modèle capitaliste, libéral, etc. Ben, y a une forme de déception de voir que, y compris dans ce milieu, des associations, des coopératives, des mutuelles, eh ben, on ne fait pas plus exister la femme, finalement, que dans les autres systèmes économiques. Et... les premiers constats qu'on avait posés aux États généraux de l'économie sociale en 2011, c'était ça. C'était plusieurs journées qui remettaient les fondements de l'économie sociale pour les repartager, etc., largement. Et ben, il n'y avait que des hommes qui prenaient la parole, et plutôt, en plus, plutôt des vieux monsieur. En plus, on a du mal à faire entrer aussi la jeunesse, parce que la voix des femmes est tue, mais la voix des jeunes est tue aussi. Clairement, on a une société qui ne laisse pas de place aux femmes, pas de place à leur voix, mais c'est pareil pour d'autres populations. Et c'est l'envie, effectivement, de pouvoir, je ne sais pas, Scarlett, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, de leur dire, voilà, moi, je fais le travail de recherche, je vous redis tout ce que les femmes, elles ont apporté pendant deux siècles sur toutes ces dimensions-là. Et maintenant, vous en faites quoi ?
Et là,
voilà, déception aussi, peut-être.
Yves, vous êtes comme l'ordinateur. Quand vous écrivez matrimoine, très souvent, c'est le mot patrimoine qui sort.
Qui apparaît. Oui.
Donc,
exactement.
Les machines sont contre nous. En plus, non seulement les hommes, mais les machines.
Sont programmées par les hommes, donc ça se reflète évidemment.
Exactement,
dans...
oui.
Justement, ce titre, je reviens sur le matrimoine, donc oui, ce que mot. Nous ont transmis les pionnières de l'ESS depuis 1830 jusqu'à 1999, est-ce que c'est un éternel recommencement? Est-ce que ce sont toujours des pionnières qui vont être de l'avant pour le mouvement de cette reconnaissance? Gudrun, peut-être tu veux intervenir?
Je voulais poser la question donc à vous deux d'abord, mais quelle conclusion de tout cela, ce que vous avez décrit là? Est-ce qu'il y a une conclusion? Donc si les mécanismes dans l'économie sociale et solidaire sont les mêmes que dans le reste de
la société.
Je pose la question comme ça, parce que nous deux, nous ne venons pas du tout par cette entrée-là. Nous venons par l'entrée, donc, matrimoine. Alors, quelle conclusion à tirer de cela?
Alors, moi, je ne tire jamais de conclusion.
Ah bon?
Parce que je ne pense qu'à la bagarre.
Bah, l'un n'empêche pas l'autre, non?
Non, mais si vous parlez de conclusion, vous parlez de fin.
Ah, non.
FIN. Vous parlez de faim. Je pense que à chaque fois, d'abord, il y a une usure des pionnières et des militantes. Mm-hmm. La preuve, vous avez parlé d'un collectif qui était usé. Mm-hmm. Nous, notre collectif femmes, eh bien, nous avons fait œuvre, mais on s'est épuisé aussi, on s'est fatigué. Parce que nous avons toujours des obstacles. Ces obstacles sont difficiles à franchir parce qu'on est dans un impensé qui perdure, l'impensé.
Tout à fait.
Bon, les femmes, mais c'est un sujet vraiment dérisoire, sans intérêt, secondaire. Le dessous de la pile, pas le dessus.
50% de l'humanité.
C'est toujours les mêmes arguments.
Tout à fait.
D'ailleurs, je pense m'attaquer un deuxième bouquin sur entre 1848 et les discours virilistes aujourd'hui pour montrer que la violence des mots, c'est comme la violence des coups, ça existe toujours et d'autant plus que le contexte renforce le virilisme. Bon, donc. La seule chose, c'est d'essayer de persuader, d'essayer de convaincre, même si on sait que c'est un peu vain. Mais il faut essayer et passer, contourner, arranger, faire passer des lois, se battre. Voilà.
Je reviens donc à cette question. Pourquoi ce sentiment d'éternel recommencement avec des pionnières sans cesse.
J'ai emprunté le titre « Matrimoine » au secteur culturel qui, depuis 15 ans, a remis en chantier, a réhabilité le mot « matrimoine ». Parce que ça me semble intéressant et intelligent. Bon. Et mon livre a failli s'appeler « Sisyphe est une femme ». Et mon éditeur m'a dit « Non, pas Sisyphe. » Alors j'ai mis Sisyphe, j'ai invoqué le mythe de Sisyphe en introduction et en conclusion, parce que Sisyphe pousse le rocher toujours plus haut, puis tout, ça retombe, et les femmes sont condamnées à être des Sisyphes. Voilà pourquoi le titre. Et en plus, il y a eu, vous parliez de recherche, moi ça m'a permis aussi de découvrir et d'apprendre des tas de choses, et notamment sur l'étymologie des mots. Là, il y a un travail, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais il y a un travail étymologique sur l'apparition, la disparition des mots qui veulent bien dire quelque chose.
Oui, Ellen Hertz a écrit
dessus, c'est ça.
Et qu'elle-même pensait qu'elle a fait un néologisme matrimoine parce qu'elle ne connaissait pas non plus ce mot. Mais elle, en étant chercheuse, elle a bien regardé quand même les dictionnaires étymologiques et elle a trouvé que le mot matrimoine, elle a des sources qui sont plus âgées que le mot patrimoine et c'est disparu. Et ça continue juste dans le quotidien comme matrimonial, ça veut dire femme de genre. Mmh. Hein, mmh. En fait, et ça, c'est ce tournage est horrible. C'est une nouvelle expression.
Et oui, merci les grammairiens de l'Académie française de 1634. On supprime tous les mots qui féminisent des métiers. Hein, peintresse, voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai des copains, quand je leur explique mon combat, alors, ils me disent, mais pourquoi il y a tant de... On parle de telle femme et de telle femme maintenant dans telle exposition. Ben, je dis, ben, parce que jusqu'à présent, on n'en parlait pas, justement. C'est bien de les rendre visibles, elles et leurs œuvres.
Justement, par rapport à la disparition de mots, c'est une parenthèse, à l'avènement des soviétiques, après la révolution russe, il y a eu un moment donné où une période, les personnes se nommaient par leur prénom et non directement sans l'adjectif monsieur ou madame. Et d'ailleurs, ce mot camarade était unisexe en quelque sorte. Oui. Est-ce que vous êtes intéressé à cette période qui a duré 2 ans, je crois ?
Ben, alors... Mes amis et camarades, je les ai connus à partir de 1976 jusqu'à 2000 à peu près. Et après, ça a été une nouvelle période où, grâce à MeToo, entre autres, les femmes, surtout les jeunes générations, sont montées au créneau. Et alors, par rapport à ça, Je vais dire un mot des violences sexuelles, sexistes, qui est le grand sujet à la mode, si je peux dire, mais qui est tout à fait fondamental. Bon. Et ça a été, je crois, un basculement. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont pris conscience des choses et qui commencent à s'intéresser. Mais avant, pas du tout. C'est à partir de ces années-là, à partir de 2000, que les choses ont évolué, y compris dans l'économie sociale. Vous disiez tout à l'heure, tous les secteurs de la vie économique, sociale et politique française sont concernés. Le cinéma, le théâtre, donc la culture en général, et l'économie, voilà. Dans nos entreprises, il y a des femmes... Qui veulent être au même salaire, à la même rémunération, vu leurs mêmes compétences que les hommes. Et on en est encore à dire « Ah ben non, non, non », même s'il y a des lois.
Gudrun et Connie, peut-être moins, parce que tu es arrivée en cours du matrimoine ondiwa, mais est-ce que vous parliez, donc d'un mouvement local qui s'est peut-être estompé, mais qui existe toujours. Est-ce que c'est à l'image aussi de ce mouvement général, de ce sentiment Scarlett cité Sisyphe? Est-ce que vous êtes un peu dans cette posture aussi?
Complètement. Hein. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement qu'avoir la même analyse.
C'est de quel fait vous avez pu essayer de comprendre ce ralentissement de ce mouvement dans le Diwa?
Bon, il y avait d'abord donc cet effet de épuisement, évidemment, et donc on a très clairement senti que c'est nous qui amenons donc ces questions-là. On le pose toujours, donc on fait toujours donc des publications, des expositions, ceci ou cela. Donc on a fait vraiment une grande campagne autour de Ivono. Donc voilà, je veux pas dire que ça n'a pas changé des choses. Par exemple, par rapport à Ivono, donc maintenant la population de Minglan s'est vraiment réappropriée le personnage. Je pense que ça a été un grand succès. Mais en général, si nous, on ne le fait pas, bouf, ça tombe. Il n'y a plus rien.
Par contre, j'étais très, très contente d'avoir vu que pour les journées de patrimoine et matrimoine, du coup, le nom patrimoine et matrimoine, c'était dans... dans le dossier du musée de Die, même sans redemander. Du coup, il y a des choses qui... Ça a pris du temps, mais qui sont restées dans les têtes. Mais il faut toujours rappeler. Et j'imagine que c'est aussi bien d'être encore vigilante des années prochaines.
Et je pense que ce qui est intéressant, et on voit bien dans les deux dynamiques, les deux démarches, celle qu'a fait Scarlett après 40 ans dans la délégation interministérielle, ou ce que fait le collectif Matrimoine en Diwa, c'est-à-dire que c'est trouver des formes qui remettent en avant ces femmes-là, il faut trouver la manière de le faire. Et c'est vrai que le récit de vie, le témoignage, pouvoir exposer leurs textes à elles, ce qu'elles avaient écrit ou ce qu'elles ont pu créer en termes d'œuvres d'art, etc., c'est des manières de les faire vivre. Et que je pense qu'on a vraiment cet enjeu en tant que femme de continuer à imaginer quelles sont les différentes manières de remettre la femme au cœur de la société, de l'espace public, et qu'il faut rester inventif, créatif. Mais je partage avec les camarades autour de la table sur le fait que souvent, c'est des femmes qui sont à l'initiative de ça, que des fois, on aimerait bien qu'il y ait des hommes qui s'en emparent en disant « Ah, j'ai envie de faire un gros travail, remettre cette femme ou ce type de femme-là en avant, parce que ça devrait les concerner autant que nous. »
On nous donne des subventions pour ce travail-là, et donc on n'a pas vraiment à mendier là-dessus.
En plus,
et vraiment dépenser une énergie folle pour pouvoir faire une petite chose là. Et donc là, on est de nouveau sur la question de rapport de force et où est le pouvoir, où est la considération, etc.
Ce matin, j'interrogeais une personne agissante sur le territoire du Diwa et à qui je demandais qu'est-ce qu'évoquait pour lui le matrimoine. Et il était incapable de me répondre, il ne savait même pas ce que c'était. Donc il y a encore une sacrée éducation à opérer au niveau du territoire.
Justement. Par rapport à vos questions, la difficulté, c'est qu'il faut informer, mais en même temps conscientiser. Parce qu'on peut inventer des livres, ou des bandes dessinées, ou des trucs audio, on peut faire plein de choses. Ça, on a toute l'énergie pour le faire. Mais pour que ça franchisse un certain seuil, il faut, je crois, qu'il y ait un travail de conscientisation à faire en direction des femmes et en direction des hommes, soit en groupe mixte, soit en groupe non mixte, mais qu'on prenne conscience, que les gens prennent conscience de tous ces blocages dont ils souffrent eux-mêmes. Les stéréotypes, on en souffre. Donc, rose pour les filles, bleu pour les garçons, ça existe encore à l'école, hélas. Et qui transmet? Les femmes. Donc, il faut aussi travailler, hommes et femmes, et arriver, espérer, là-bas, au loin, l'harmonie entre nous.
Nous arrivons à la fin de cette première partie d'interview concernant le matrimoine, et nous nous retrouvons à 19h10 pour la seconde. I've tasted matters of my own and learned to like it. I've gone under the I know how to
fight.